Bonjour et bienvenue à vous dans cette 13e leçon du podcast Libre et Photographe, l'émission photo qui vous aide à enclencher sereinement votre reconversion professionnelle dans la photographie et vivre de la photo. Je suis Régis Moscardini, photographe, coach pour photographe et j'aide mes clients dans la professionnalisation de leur passion pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Ici, je publie un nouvel épisode toutes les deux semaines avec deux formats. Et le premier, c'est l'interview, vous découvrez le parcours et l'expérience d'un ou d'une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent, que ce soit dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou juste pour, dans un premier temps, se payer son matos ou arrondir ses fins de mois. Et puis le deuxième format, celui qui nous concerne aujourd'hui, la leçon. Je vous donne des conseils concrets de photographe pro sur un sujet bien précis. Dans ce podcast, que vous êtes plus de 4000 à écouter chaque mois, mais vous l'avez compris, je partage tout ce que j'apprends, tout ce que je sais, ce que j'expérimente en tant que photographe entrepreneur à temps plein depuis 2013. J'ai à cœur de vous donner les clés pour changer votre vie professionnelle et donc personnelle, comme je l'ai fait pour moi et pour des dizaines d'autres photographes. Aujourd'hui, pour cette 13e leçon, je vous ai concocté du lourd. C'est un format particulier car il s'agit ni plus ni moins de l'enregistrement d'une de mes conférences en ligne. Je vous rassure, j'ai fait un vrai bon montage, coupé les longueurs, pour ne garder que le pur contenu à haute valeur ajoutée. Elle dure une heure, je sais, c'est plus long d'habitude, mais l'avantage du podcast doit ici marcher à plein pour vous, c'est-à-dire écouter dans votre voiture, en marchant, en cuisinant, en faisant le ménage, bref, en faisant ce que vous voulez. C'est donc, dans les conditions du direct et ma façon de parler, eh bien vous verrez, plus rapide que d'habitude. Je suis plus dans le feu de l'action, alors veuillez m'excuser par avance si parfois je mange un peu les mots, mais c'est la passion qui m'anime. Vous allez apprendre cet épisode les 6 erreurs qui plombent votre projet et surtout comment les éviter, les 3 clés où focaliser vos efforts pour mettre toutes les chances de votre côté, et enfin les 3 actions les plus efficaces à faire immédiatement pour mettre votre activité de photographe pro sur les meilleurs rails possibles. Je suis certain que ça va vous plaire, alors pensez à laisser un commentaire si c'est le cas, et puis une chouette note sur Spotify ou alors Apple Podcast, comme vous voulez. Je vous souhaite une excellente écoute. Mon parcours très rapide. J'ai été prof des écoles de 2004 à 2013, Instit. Voilà, dans le Morvan pendant 9 ans. Et puis donc en 2013, je me suis mis en disponibilité pour lancer mon entreprise dans la photographie. Voilà, donc entrepreneur photographe depuis 2013. Et depuis 2013, eh bien, je n'ai jamais remis les pieds dans une classe et je ne remettrai jamais les pieds dans une classe parce que ce ne sera pas affiché ici. Mais j'ai démissionné en 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement. Donc j'ai signé un jour radié des listes de la fonction publique. Voilà, tout ça pour vivre de mes compétences photo. Je dis pas photographe pro parce que photographe pro, ça dans l'esprit des gens et à juste raison, hein, ça veut dire qu'en gros qu'on fait des photographies et qu'on vend ces photographies. Mais vivre de la photographie, c'est beaucoup plus large que ça. Donc moi, mon business model, ça a pas été de vendre des photographies, ça a été de faire des shootings parfois, mais surtout ça a été d'être formateur photo pour celles et ceux qui voulaient apprendre à mieux utiliser leur appareil photo, tout simplement. Donc j'ai créé des formations photo, présentielles, sur Internet, en ligne, voilà. Je me suis spécialisé en marketing Internet. Je tiens un podcast photo, peut-être que certains ici le connaissent, qui s'appelle Libre et Photographe. Je publie très régulièrement des interviews et des petites leçons là-dessus. Je suis coach business pour photographe. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la conférence. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Mes domaines photo, les animaux sauvages. C'est mon premier amour de photographe, voilà, environnement naturel, on va dire, hein, les paysages, et puis aussi les portraits, c'est quelque chose qui me botte de plus en plus, j'en fais de plus en plus, ça me travaille beaucoup là-dessus. Et puis la photographie astro, mais plus sur un côté vraiment par curiosité, et puis pareil pour lier deux passions qui sont celles de la photographie évidemment et celles de l'astronomie aussi, mais vraiment à titre très amateur. Alors, pour quelles raisons vous êtes ici ce soir ? Si là maintenant on est peut-être plus de 40, si vous avez décidé de ne pas aller regarder la télé, si vous avez décidé de ne pas regarder Netflix, décidé de, je sais pas, de pas aller lire par exemple, ou de pas aller au cinéma ou autre chose, et de rester ici avec moi, je vous en remercie encore. C'est que vous avez une vraie ambition. Cette ambition, en fait, c'est celle-ci. C'est de vous sentir, alors je vais réduire ça parce que ça me gêne un tout petit peu, voilà. C'est de vous sentir légitime et à votre place en tant que photographe qui souhaite monétiser ses compétences. J'aime bien cette expression-là, si vous avez des compétences photo, vous voulez les monétiser. C'est assez général, ça veut dire que vous voulez, d'une façon ou d'une autre, gagner de l'argent grâce à ces compétences, grâce au temps que vous avez passé à vous former et grâce à tout ce que vous avez appris depuis probablement des années dans la photographie. Ça, vous voulez le monétiser. Sauf que vous avez peut-être un déficit de légitimité, le fameux syndrome de l'imposteur qui opère en vous. Eh bien, ça, vous voulez simplement eh bien, vous sentir à votre place et le supprimer. Votre ambition, elle est également d'avoir un impact positif en mettant votre savoir-faire de photographe au service des autres. C'est quelque chose que je vais vous répéter régulièrement. C'est que vous en avez peut-être pas forcément conscience, mais quand on est photographe, on n'est pas que photographe. Je vais vous le redire aussi dans la conférence. On résout des problèmes. Donc surtout, on va aider des gens, n'importe quel type de personne, en l'occurrence nos clients, vos clients, à se sentir mieux, à passer une situation, on va dire, idéalisée. Okay? Et donc ça, c'est votre mission en tant que futur entrepreneur, même déjà entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous avez encore du mal à matérialiser. Eh bien, vous avez envie, et en tout cas, moi, je sais que vous avez cette ambition-là de matérialiser, de concrétiser ce service que vous voulez rendre aux autres. Autre chose, autre ambition, ben c'est de manière beaucoup plus pragmatique, hein, c'est réussir à avoir assez de clients pour en vivre tout simplement, sans être mal à l'aise dans la vente et le marketing. C'est quelque chose que aussi je vais développer un peu plus tard, mais vous êtes photographe, vous aimez ça, évidemment, tout comme moi, on est tous ici des bons photographes, sauf que ben, la partie commerciale, la partie vente, la partie qui fait plus peur, celle-ci, ben, vous freinez des quatre fers pour y aller, et quand vous y allez, en gros, vous faites peut-être les choses à moitié, donc sans forcément trop de résultats. Donc, du coup, il y a quelque chose qui coince là-dedans. Et donc, vous voulez basculer ça. Et puis, quelque chose de plus global, peut-être, être plus épanoui au quotidien. Je ne sais pas, évidemment, le métier que vous faites. Je ne sais pas votre rythme de vie, votre façon de vivre. Mais il y a fort à parier que si vous êtes là encore une fois ce soir, c'est que vous avez envie d'un changement. Professionnel, personnel, en tout cas, de vivre une bascule. Et cette bascule-là, vous sentez qu'elle doit être opérée, qu'elle doit être faite grâce à la photographie en professionnalisant votre savoir-faire. Donc ça, c'est une vraie ambition que vous avez ici, que vous avez. Et donc, à nouveau, bah, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes ici ce soir. Alors, le problème, c'est que, et si je vous dis c'est en toute connaissance de cause, pour deux raisons, c'est que moi je suis aussi passé par là, et je passe encore par là parce que on est entrepreneur toute notre vie, et même le plus avancé des entrepreneurs, quand il lance quelque chose de nouveau, quand il a envie de progresser, forcément il est confronté à des choses comme celle-ci. Donc vous avez du mal à vous sentir dans la peau d'un photographe pro, et donc à afficher votre ambition. C'est-à-dire que vous avez envie de le faire, mais quand vous voulez le faire, voilà, il y a quelque chose qui va coincer. Vous ne sentez pas à votre place, vous dites que vous pensez les autres. Est-ce que ça va marcher? Même mes proches, ma famille, qu'est-ce qu'elle va penser? Bref, il y a quelque chose qui coince et vous ne vous sentez pas vraiment encore. Voilà, quand on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, quelque part, un peu comme on demande à un enfant, vous n'osez pas dire je veux devenir photographe pro parce que il y a un décalage entre ce que vous voulez devenir vraiment et la façon dont vous voulez l'afficher réellement. Vous remarquez que beaucoup d'autres photographes sont sur le même créneau que vous et ça vous bloque. Ça s'appelle la peur de la concurrence, ça s'appelle la comparaison par rapport aux autres. Et c'est quelque chose que vous pouvez vivre via Instagram, mais aussi peut-être en voyant des photographies sur des portfolios à droite et à gauche. Donc voilà, vous voyez que d'autres se lancent, vous voyez qu'il y a des gens qui investissent des créneaux, peut-être même localement, vous voyez peut-être des pubs parfois, des prospectus qui sont à droite et à gauche dans des magasins, pourquoi pas. Et vous voyez qu'il y a des gens qui ont déjà un coup d'avance sur ce que vous voulez faire, et ça aussi, ça vous bloque. Vos semaines sont déjà très remplies, je le sais, parce que les miennes le sont, parce que je sais que les vôtres le sont également. Et donc, ajouter ce qu'on appelle le fameux side project, ou le parallel project, hein, voilà, c'est en gros, ben, c'est votre projet à côté, qui est celui de devenir photographe pro, ben, ça vous fait peur. En gros, vous vous demandez, mais comment je vais bien pouvoir remplir, pas remplir, parce que vos journées sont déjà très remplies, hein, mais comment je vais pouvoir intégrer eh bien, ce que je souhaite faire en plus de ce que j'ai déjà. Et puis, vous êtes confronté à la crainte de ne pas gagner assez d'argent et de perdre votre confort de vie actuel. C'est une vraie crainte qui est légitime, qui est normale, parce que voilà, le métier de photographe, c'est être donc à son propre compte. Ça veut dire donc être entrepreneur. Ça veut dire que vous êtes la seule personne qui va être capable de générer du chiffre d'affaires pour votre entreprise. Et donc, si quelque chose qui coince quelque part, ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de ventes, il n'y aura pas assez d'argent, il n'y aura pas assez de salaire à la fin. Et donc, s'il n'y a pas assez de salaire, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie de tous les jours? Vos crédits, acheter à manger, peut-être le regard des autres également, perdre en confort de vie, parce que si vous avez un métier actuellement qui est bien payé, ou peut-être pas forcément très bien payé, en tout cas,
Il y a un salaire qui arrive tout le temps, bien là, qu'est-ce qui se passe si le salaire arrive moins, de manière irrégulière? Comment vous allez sentir ça? Et ça, c'est une vraie peur, une vraie crainte, et votre cerveau, il est câblé pour vous permettre de rester en vie, hein, clairement. Hein. Et donc, tout ce qui fait peur comme ça, bien le cerveau, il est très bien fait, il vous préserve de ça, et comment il fait pour vous préserver de ça? Il vous empêche de passer à l'action, tout simplement. Donc, ça, c'est une réalité. Alors, je vous demande de bien rester là. Si vous êtes là maintenant encore, c'est que vous n'allez probablement pas partir tout de suite. Donc, le programme que je vous ai préparé ce soir, alors, je vous dis clairement, hein, je donne tout ce que... Enfin, en tout cas, plein de choses. J'y mets le plus de cœur possible, le plus d'énergie possible. Mais ça ne va pas, comment dire, en un claquement de doigts, vous n'allez pas, dès demain matin, devenir photographe pro. Ce n'est pas ça l'objectif. Moi, ce que je veux ce soir, en tout cas à travers ce temps qu'on va passer ensemble, c'est de vous donner des clés activables tout de suite, donc des informations concrètes, précises, hein, pratiques, mais aussi des choses très motivantes. Vous donner la capacité à croire en votre projet et que vous repartiez en vous disant « Ouais, mais... » Enfin, voilà. Régis a raison sur plein de points. Ça me fait ouvrir les yeux. Et ben, en gros, j'ai vraiment qu'une envie maintenant, c'est d'y aller à fond. Donc, on va commencer par les six erreurs qui plombent votre projet et surtout comment y remédier. On verra ensuite les trois piliers pour mettre toutes les chances de votre côté. Et les actions, il y en a trois, hein, à mettre en place immédiatement, donc très pratiques, que vous pourrez faire dès ce soir, dès demain matin. Donc, les six erreurs, et donc, on va commencer par la première. La première de ces six erreurs, c'est attendre que ça vienne tout seul. Première chose, vous pensez que publier des belles photos sur les réseaux, c'est suffisant. En gros, ben, que votre talent de photographe, votre savoir-faire de photographe, ça va faire le travail à votre place. Il suffit de, quand vous êtes bon photographe, vous avez votre niche, votre savoir-faire, votre patte, on va dire, qui vient par le réglage, par les sujets, par la façon dont vous guidez vos sujets si vous faites de la photographie de portraits, de modèles, selon, la lumière que vous allez chercher, selon votre post-traitement, bref, tout ça. C'est votre patte à vous, évidemment. Et vous vous dites, il suffit de publier, d'être plus ou moins actif sur les réseaux, d'avoir un site internet plutôt pas trop mal fait. Et donc, ça fera le travail à ma place. Je n'aurai pas grand-chose à faire. Un peu comme un artiste, finalement, qui fait de la sculpture, qui va écrire des livres, qui compose de temps en temps à des éditeurs son bouquin, et puis ça sera tout seul. Voilà. Ne pas avoir d'objectif précis, clairement défini, et ne pas avoir de plan d'action construit. En gros, c'est un peu le côté... Je ne sais pas comment dire, mais on est bien... Enfin, voilà, on fait le truc, on est photographe. Je ne me prends pas trop la tête parce que je n'ai pas trop envie de me la prendre. Et puis... Je sais que j'ai envie de devenir photographe pro. Si ça ne vient pas, ce n'est pas très grave. Je ne suis pas trop mal comme ça. Je m'en contente. Et donc, je ne vais pas aller au-delà. Je ne vais pas trop m'embêter avec cette histoire de photographie pro, de ne pas trop prendre la tête finalement. OK. Sauf que si vous faites comme ça, il ne se passera rien du tout. Ou en tout cas, trop peu de choses. La conséquence, je vous l'ai mis ici, c'est qu'il ne se passe rien. Et comme il ne se passe pas grand-chose, alors vous ne faites rien de plus parce que vous dites, de toute façon, ça ne décolle pas, ça ne prend pas, donc je ne vais pas m'investir. Quoi. Apparemment, ça ne marche pas trop, je ne vais pas m'investir. Ça peut être l'inverse aussi. Hein, vous publiez des photos et encore et encore et encore. Vous allez photographier encore et encore et encore. Ou vous formez en photographie encore et encore. Mais finalement, quand vous ne faites que ça, et vous ne travaillez pas sur le fameux réseautage, avoir un réseau, peu importe, en présentiel, en vrai, en physique, ou alors un réseau numérique sur différents réseaux sociaux, par exemple, vous ne faites que de la photographie, en quelque sorte, ça ne suffit pas. Donc, vous attendez que vos photos travaillent pour vous. Sauf que non, les photographies, une fois qu'elles sont publiées, finalement, elles ne vont pas faire grand-chose, les petites photos avec leurs bras musclés. Hein. C'est à vous de faire autre chose. Donc, on verra dans la conférence quoi faire. Mais en tous les cas, ne surtout pas attendre que ça vienne tout seul. Il faut, et je vais dire très souvent, ça, c'est un vrai quelque chose qui me sert tous les jours dans l'entrepreneuriat, c'est passer à l'action. Allez-y, testez, tentez, lancez-vous, faites des choses, des toutes petites choses, des choses plus importantes, mais passez à l'action. Deuxième chose, papillonner et vouloir tout faire. Ça, c'est aussi un vrai danger. On est tout seul à la barre, en tant que photographe freelance, en tant que photographe entrepreneur, on est tout seul. Et quand on est tout seul, on est une espèce de fierté à afficher toutes ces casquettes. Par exemple, je vous mets un premier exemple, mais on est... On sait qu'il faut aller sur les réseaux parce qu'on nous l'a dit. Donc, du coup, ben voilà, je suis sur Instagram, j'ai mis mon truc. Je sais que ben, pour essayer de vendre, j'ai essayé de vendre par DM, donc je réponds par des messages privés. Par mail, on m'a dit que ça marchait pas trop mal, donc j'ai essayé d'envoyer des mails. Je fais de la pub aussi, donc voilà, je booste mon post sur Instagram ou sur Facebook. Je fais des stories qui incitent les gens quand même à acheter mon truc. J'essaie plein de choses sur 500 pixels, par exemple. Voilà. Je vais un peu partout. Ensuite, par rapport au type de photographie, ben, j'essaie de vendre un petit peu tout ce qui touche à la photo, hein, tout ce qui est vendable quelque part. Ben, bon, je fais des petits tirages quelque part, donc j'essaie d'en vendre sur mon site internet. J'ai une petite boutique, des cartes postales. Je fais aussi des shootings parce que, bon, ben oui, je suis photographe, donc je sais photographier, donc des shootings, ça peut peut-être marcher. Des mariages, parce qu'on dit toujours que le mariage, ça paye, et c'est vrai que ça paye. Du scolaire, pourquoi pas. J'essaie de faire des workshops, parce que la formation, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça, et puis les gens s'en demandent, il y a de plus en plus de photographes. Bon, voilà. Donc, j'essayais de faire plein de choses. Ensuite, tout faire comme ça vient, sans organisation ni anticipation. Prospection, photo, comptabilité, SAV, c'est-à-dire répondre en gros mail, hein, puis au message privé, se former en photographie. Tout ça, vous le faites au petit bonheur de la chance, sans vraiment une véritable organisation. C'est-à-dire que, en fonction du temps que vous avez disponible dans votre semaine, voilà, allez, ben, vous savez que vous avez peut-être une heure qui s'ouvre devant vous. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour remplir cette heure-là? Bon, ben, ah, j'ai déjà commencé à répondre un peu à mes mails. Tiens, j'ai des photos à publier sur Instagram. Tiens, j'ai des commentaires auxquels je dois répondre. Tiens, il faut que je fasse une sortie photo parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas faite. Et puis, du coup, je commence un petit peu à tourner en rond dans ma publication sur Insta. Bref, vous voyez, il n'y a pas d'organisation, surtout il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de stratégie. Vous allez un petit peu dans tous les sens. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait logique et normal parce que, voilà, on y va, on se lance, pro ou pas pro pour l'instant, mais on a envie d'embrasser tout ça. On a peur d'oublier de faire des choses, donc on essaie vraiment de tout faire presque en même temps. Et donc, c'est évidemment hyper contre-productif. La conséquence de ça, c'est que bah, vous passez du temps, il n'y a pas de résultat, parce que vous papillonnez, hein, c'est ça le truc, et puis vous vous découragez. Troisième erreur qui vient après, c'est penser que le marketing, c'est mal. Et ça, c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu. Les élèves qui sont dans mon programme, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup parce que on est tous quelque part issus du même moule, la plupart du temps, qui est celui du côté artistique de la photographie, mais aussi qui on vient du salariat, voyez, moi, éducation nationale, mais salarié quand même, fonction publique, privé, peu importe. Mais en tout cas, on n'a jamais été confronté à devoir vendre nos choses pour gagner de l'argent. Okay, quoi qu'on fasse, finalement, en tant que salarié, ben, à la fin, ça tombait l'argent. Bien ou pas bien, ça tombait quand même. Là, il y a cet aspect-là des choses qui arrivent, c'est que si je vends pas, eh bien ça se passera pas bien pour mon entreprise. Donc le problème, c'est qu'on a ces pensées-là, on a ces fausses croyances que, comme par exemple celle-ci, c'est penser qu'utiliser le marketing, c'est forcer les gens à acheter ce dont ils n'ont pas besoin. Ça, c'est une vraie fausse croyance. Alors bien sûr qu'il y a des entreprises qui vont, on est un peu nourri par ça, hein, ce qu'on appelle les campagnes marketing des grandes boîtes, hein, les grandes campagnes promotionnelles qui vont nous. Et ils arrivent très bien. Je pense aux produits high-tech, par exemple. Vous savez, hein, voilà, on va nous faire croire, parce que c'est ça, on nous raconte une histoire, ils sont très bons pour ça. Et on peut s'inspirer, finalement, de leur storytelling. Mais finalement, ils vont nous faire croire que si on n'a pas le dernier machin, pour reprendre quelqu'un, hein, la situation de quelqu'un, on a arrêté notre vie, quoi. L'idée, c'est celle-ci. Donc, comme on a ça en tête, du coup, on se dit que ben, moi, je ne vais pas le faire pour moi. Je suis quelqu'un de pur, quoi, vous voyez, j'ai mon éthique, j'ai mes valeurs, et je ne vais pas faire ça. Sauf que le marketing, ça peut être ça, mais ça n'est pas que ça. On peut utiliser évidemment des aspects psychologiques de l'esprit humain, bien sûr, mais dans un dessin noble, ok, mais on peut aussi l'utiliser dans un dessin qui est moins noble, et c'est ce que font certaines entreprises, ok, mais pas nous, et pas nous photographes. Pensez aussi qu'un photographe est un artiste, c'est la réalité, mais sous ce couvert-là, sous cette excuse-là, finalement, bah, c'est incompatible avec du commerce business. Voilà, je sais que c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais je sais que ça existe aussi quand même, hein, et peut-être que vous vous sentez un petit peu comme ça, c'est-à-dire que bah, voilà, moi, je suis photographe, je suis artiste, j'ai pas envie de quelque part de quémander ou pleurnicher pour que les gens achètent mes photographies. Ben, si mes photographies, elles sont belles, si je fais bien mon boulot d'artiste photographe, ben, ça suffira, quoi. Les photographies, elles sont belles, les gens vont les aimer, puis ils vont les acheter. Ils tomberont amoureux d'elles. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut, quoi qu'il arrive, développer un vrai savoir-faire, ben, de vendeur, de commercial. Vous êtes votre, parmi toutes les casquettes que vous avez, vous avez la casquette du commercial de votre entreprise. Ça, c'est absolument artiste ou pas. Si vous faites des workshops, si vous faites des shootings de mariage, on va dire que le côté artiste, il se met un petit peu de côté. On est d'accord là-dessus. Voilà, vous avez un œil, vous avez une patte, évidemment, mais vous ne vendez pas vos tirages. Okay, vous n'êtes pas dans les galeries d'art, je veux dire, ou dans des musées, par exemple. Voilà, dans des musées, par exemple. Mais quoi qu'il arrive, quoi que vous vendiez, il faudra passer par la case commerce, business. C'est une réalité. S'imaginer que vous n'êtes pas fait pour vendre. J'entends tellement de fois ça. Quelle est ta plus grosse crainte? Ma plus grosse crainte, c'est que voilà, je ne sais pas me vendre. Voilà, c'est ce truc qui revient très souvent. Je ne sais pas me vendre. Déjà, la première chose, c'est pas vous allez vendre. C'est votre produit. C'est votre offre, c'est votre tirage, c'est votre session de shooting, c'est ce que vous voulez. C'est pas vous vendez. Donc déjà ça, il faut arrêter de dire je ne sais pas me vendre. Vous pouvez dire je ne connais pas les techniques pour promouvoir mon offre, ce que j'ai à vendre. Ça, ok, ça marche. Mais je ne sais pas me vendre. C'est pas ça qui, voilà, c'est pas là le problème. Ok. Donc, s'imaginer que vous n'êtes pas fait pour vendre, ça c'est une vraie vraie fausse erreur. Je vais vous dire en deux secondes. Moi, mon parcours. Mon papa, ça y est, la fonction publique. Ma maman, secrétaire de direction, donc ça y est, la fonction privée. Mon frère, employé dans une grande boîte, cadre, voilà, cadre supérieur, mais salarié aussi. Mon épouse, prof. Tout mon environnement familial, c'est ou prof ou salarié. Ok. Moi, prof pendant 10 ans. Aucune étude liée à du marketing ou du si un peu de management, mais voilà, c'est tout, hein. Et du sport, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà beaucoup, mais je veux dire, pas dans le marketing, pas dans le commerce, pas dans, rien là-dedans. Donc, moi aussi, je me disais ça. J'ai peur de vendre mes photographies, j'ai peur de vendre mes tirages photos, j'ai peur de vendre mes prestations de shooting. Je sais pas comment je vais faire. Ça s'apprend, je l'ai appris. Et quand on apprend ça, on vend. Et quand on vend, on reçoit de l'argent en échange de ça et on s'en tire un salaire. Donc, tout s'apprend, et particulièrement ça. Donc, conséquence, vous ne pouvez pas remplir votre mission. Votre mission, c'est laquelle? C'est de rendre service aux gens qui ont besoin de vous en tant que photographe. Si vous ne savez pas communiquer dans les règles de l'art pour que les gens puissent vous rencontrer et vous connaître, et donc comprendre que vous avez des choses à leur vendre, eh bien, vous ne pouvez pas remplir votre mission, même si vos photographies sont les plus belles du monde. Ensuite, quatrième erreur, parler à tout le monde. Ça, c'est une erreur très fréquente aussi. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, probablement, mais ça peut arriver aussi parfois. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez spécialisé en tant que photographe. Et donc, vous voulez aller dans beaucoup de thématiques photos. Pourquoi? Parce que vous vous dites, c'est un petit peu la phrase qui suit aussi derrière, c'est que, voilà, c'est un petit peu de manière logique. Vous vous dites, plus j'embrasse de thématiques photos, plus j'aurai de chances, en gros, plus je vais augmenter la masse potentielle de clients. Et donc, plus j'aurai de chances de vendre. Si je fais que de la photographie de macro d'insectes volants, par exemple, bon, ben, j'ai beaucoup moins de chances, il y aura beaucoup moins de masse de clients potentiels que si je fais ça. Et en plus, je fais des portraits corporate pour les chefs d'entreprise. Et puis, si en plus, je fais de la photographie culinaire. Et puis, si j'ajoute à ça de la photographie de mariage, par exemple, vous voyez, évidemment, ça va, logiquement, ça va agrandir tout ça. Le problème, c'est que eh bien, vous changez constamment de discours pour donc plaire à tout le monde. Puisque vous savez que, puisque vous touchez à plein de domaines photos, ben, à un moment donné, il faut un peu parler à ceux-là. Et puis, à un moment donné, il faut parler un peu à d'autres. Et puis, voilà, vous publiez ce genre de photographie. Vous publiez aussi d'autres types de photographies. Donc, tout ça, ben, ça manque de cohérence, évidemment, je vais y venir. Ou alors, à l'inverse, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de changer de discours à chaque fois. Donc, vous avez le même discours pour tout le monde. Sauf que ce tout le monde-là, ben, les gens sont très différents les uns des autres. Et donc, ce qui va peut-être parler à certains, ça ne va pas du tout parler à d'autres. Ce qui fait qu'au final, la conséquence, c'est que vous manquez de cohérence dans votre communication, dans votre et surtout dans votre expertise. C'est-à-dire que à vouloir parler à tout le monde, c'est assez connu, hein, mais on parle à personne. Et surtout, eh bien, vous n'êtes aux yeux, j'ai réussi à faire la phrase, vous n'êtes l'expert de personne, en fait. C'est-à-dire que les gens qui vous voient, peut-être qu'ils vont vous croiser en tant que photographe sur les réseaux, à droite ou à gauche, ou ailleurs, peu importe, ben voilà, ils vont vous voir photographier, ah, tiens, c'est bien ce qu'il fait, mais tiens, il fait ça à côté, je ne comprends pas, c'est pas la même chose. Ok, mais s'il fait ça, c'est qu'il n'est peut-être pas à focus là-dessus, quoi, voyez. Donc, on se dit tout ça quand on voit ce genre de personnes qui n'est pas cohérent et qui manque de cohérence. Ok. Donc, quelque part, de faire ça, c'est une fausse bonne idée, en fait. C'est au contraire, soyez focus, spécialisez-vous, vous deviendrez meilleur dans ce domaine-là. Les gens qui vont vous découvrir verront que vous ne faites que ça. Le discours que vous aurez, il aura de la cohérence. Et en gros, ben, je schématise très vite, hein, mais ben, quand ils auront besoin de vous et qu'ils voudront faire appel à votre expertise, ils vont vous voir vous, parce que vous êtes celui qui sait faire, et pas celui qui fait un petit peu tout, moyennement. Cinquième erreur, se comparer sans cesse. C'est humain, on se compare toujours. Et moi aussi, je me compare. Évidemment, c'est quelque chose qui est... On a besoin de se situer. Évidemment, ça fait partie des... on a peur de ne pas savoir sa valeur absolue. Donc, du coup, on a envie de savoir sa valeur relative aux autres. Sauf que quand on fait ça, eh bien, il y a un vrai danger. C'est, par exemple, le premier, c'est de se sentir inférieur au regard des photos faites par les autres et la quantité affichée. Hop, petite parenthèse, je vois la question de Sophie. Super question, je reviens à la slide d'avant, la numéro 4. Et si on aime vraiment plusieurs domaines, qu'on a vraiment envie de faire plusieurs choses, ça, c'est quelque chose qui est très récurrent, mais je le vois aussi parmi les élèves de ma formation. C'est quelque chose qui est difficile à trancher. Alors, je ne connais pas, Sophie, ce que tu fais, mais une possibilité, c'est d'aller voir là où il y a, alors je dis ça avec des guillemets, hein, mais il ne faut pas en répondre non plus, là où il y a le plus d'argent, là où les clients potentiels ont le plus d'argent, sont le plus à même de te payer, là où il y a un marché quelque part, tu vois. Si tu aimes faire, encore une fois, je prends cet exemple de photographie de macro, de libellule sur des roseaux, tu adores faire ça, ça va être dur de monétiser ça. Parce que pour le coup, c'est très, très niché. On peut y arriver, évidemment, peut-être, mais ça va prendre du temps. Mais quelque part, ça peut être plus compliqué. En revanche, si une autre de tes passions, c'est la photographie de grossesse, par exemple, même s'il y en a beaucoup qui le font déjà, je sais, mais il y a probablement beaucoup plus de potentiel économique. Hein, là-dessus, il y a un modèle économique plus abouti, déjà avancé, qui a déjà fait ses preuves. Et donc, ça peut être un critère de choix pour toi. Il y en a d'autres, mais c'est peut-être une première piste que je peux te donner. Donc, voilà, je reviens là-dessus, on se compare sans cesse. Donc, et quand on se compare, bah, le risque, c'est de se sentir inférieur au regard des photographies faites par les autres. Et puis, souvent, la quantité affichée. On voit tout ce qu'ils font les autres, voire sur Instagram particulièrement, mais ils postent tous les jours. Mais comment il fait, le gars, en fait, hein? Donc, ça nous dévalorise, forcément. On tente de faire la même chose que ceux pour qui ça semble fonctionner. Ben voilà, on le voit bien, il a plus de likes. Quand il poste des stories, il est booké. S'il fait des shootings photos, par exemple, toutes les places de juin sont prises. Il poste une story où il a vendu telle ou telle photo, ou sold out, hein, vous voyez, les tirages photos, ben, ça, il n'y en a plus à vendre, hein, les tirages limités sont tous partis. Et là, vous vous dites, ben, voilà, pour lui, ça marche, je vais faire comme lui, quoi. Hein. Et donc, en faisant ça, quelque part, c'est une petite forme de... Vous travestissez un petit peu, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment vous. Vous voulez faire comme ceux pour qui ça marche. Mais je vais vous dire une chose, hyper importante. Et quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a vraiment enlevé un poids énorme. C'est que tout ce qui est affiché, particulièrement sur les réseaux, ceux qui affichent des choses sur les réseaux, et vous aussi, qu'est-ce qu'on affiche tous sur les réseaux? On affiche ce qui marche. On publie nos plus belles photos. On publie ce qui a fonctionné pour nous. On publie nos réussites. On publie nos ventes, on publie tout ce qui va concourir à asseoir notre légitimité. Encore une fois, nos réussites. Parce que en le faisant, et c'est normal, il faut le faire, en le faisant, on se dit, les gens qui nous suivent, ils vont dire, lui, voilà, ouais, génial pour lui, il est vraiment bon. Mais tout le monde fait ça. Et ceux que vous regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose. Sauf que quand vous voyez ce qu'ils publient, vous voyez le meilleur, la crème de la crème, tout ce qui marche pour eux, ok? Et ça, s'il met en comparaison avec ce que vous savez de vous. Ce que vous savez de vous, c'est quoi? Ce qui marche aussi pour vous, vous le savez, c'est vous qui vous connaissez. Mais vous savez aussi ce qui ne marche pas pour vous, parce que c'est vous, vous vivez, vous l'avez vu. Vous avez loupé votre session de shooting ce matin. Vous avez fait un livre en auto-édition qui ne se vend pas. Et donc ça, ce sont les choses que vous savez, que les autres ne savent pas. Et donc, vous vous comparez aussi par rapport à ça. Donc, dites-vous une chose, c'est que quand on se compare aux autres, on est forcément perdant, parce qu'on va regarder ce qu'eux réussissent, parce qu'ils ne montrent que ça, au regard de ce que nous, on réussit, mais aussi ce qu'on rate. Donc, on est forcément perdant. Donc, deux choses à faire. Soit on arrête de se comparer et en gros, on ne regarde plus. Ça peut être une solution un peu radicale, mais pourquoi pas. Soit quand on regarde, dites-vous toujours que celui qui le montre, Instagram, Facebook ou ailleurs, ou qui vous en parle de vive voix, dites-vous toujours qu'il ne vous partage que ce qui aurait marché pour lui. Et tout ce qui ne marche pas, il ne le dit pas. Voilà, donc croire que tout est beau et facile quand on voit la réussite des autres, hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, conséquence, bah, vous perdez du temps, comparé, de la confiance, ça fait baisser le niveau d'énergie énormément, hein, et l'alignement, quoi. Parce qu'on se sent, bah, des fois, on se sent pas bien, vraiment, parce qu'on voit que les autres avancent, et pas nous. Et pourquoi lui, et pas moi. Sixième erreur, rester seul dans son coin. Alors, pensez que tout maîtriser est gage de succès. Ça, c'est aussi quelque chose quand on commence tout seul. Forcément, au début, on est tout seul, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait tout. Okay, mais on fait tout parce qu'en gros, au début, on n'a pas le choix. Hein, okay, mais aussi parce que ben, on pense que c'est nous qui savons exactement où on veut aller, ben, on maîtrise le truc. C'est-à-dire que voilà, on sait ce qu'on doit faire pour y arriver. Et puis, on pense aussi que déléguer, ce n'est valable que pour les grosses structures. Ça, c'est faux. On peut parfaitement déléguer des toutes petites tâches, pas chères. Il y a des structures, des sites qui existent pour ça. On peut même déléguer des fois gratuitement, en espèce de partenariat. On peut trouver des accords, hein, voilà, avec d'autres personnes. Mais on peut parfaitement déléguer même quand on débute. C'est tout à fait possible. Déléguer quoi ? Ben, pourquoi pas l'animation ? Alors, pas l'animation, mais peut-être la réponse à son compte Instagram. Pourquoi pas ? Ça peut être tout à fait une manière d'éléguer quelque chose. Ça peut être la réponse, les réponses aux mails. Si on a des mails de demande, je sais pas, de vente, de partenaire, pourquoi pas déléguer cette partie-là ? C'est tout à fait, ou peut-être la partie administrative. On a peut-être son épouse qui est un peu dans ce domaine-là. Et bien, peut-être prendre cette partie, c'est carrément possible. On peut déléguer ces petites choses-là. Croire que vous pourrez être accompagné seulement quand vous serez plus avancé. Ça, c'est aussi une vraie fausse croyance. Et c'est quelque chose que je dis régulièrement, c'est toujours se dire cette excuse de la peur d'avancer. C'est-à-dire que se donner comme bonne excuse, comme bonne fausse excuse de se dire, voilà, je le ferai quand ce sera le moment. Je le ferai plus tard quand j'en serai là. Quand j'en serai là, c'est bon, je me ferai accompagner. Quand j'en serai là, quand j'aurai fait ma première vente, quand j'aurai mon site, je me serai mis à mi-temps, et bien à ce moment-là, ok, je me ferai accompagner, je me ferai coacher, je suivrai une formation, je prendrai des cours, je lirai des bouquins, j'en sais rien, ou je pourrai déléguer, mais quand j'en serai là, pour l'instant, je galère un peu, donc voilà, on verra plus tard. Ça, c'est une vraie erreur. Okay, c'est une vraie erreur, c'est l'inverse. C'est vraiment un changement de paradigme que vous devez avoir dans votre esprit, dans votre cerveau. Ce n'est pas facile, mais il faut vraiment changer de mode de fonctionnement. Ne plus se dire « je ferai ça ben, quand j'en serai là », c'est de se dire « je fais ça maintenant parce que ça va m'aider à aller là ». Après, ça demande une organisation, évidemment. Ça demande de la structure, de la stratégie. Mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. La conséquence, c'est que vous vous isolez, vous ne prenez pas de hauteur, hein, on ne prend pas de recul parce qu'on est tout seul, donc on tête dans le guidon, hein, on connaît ces trucs, tête dans le guidon, et puis ben voilà, on n'avance pas suffisamment. Enfin, en tout cas, on fait des choses, mais toutes ces choses-là, elles ne donnent pas de résultats, et on s'épuise. Et donc, comme il n'y a pas de résultats, alors qu'on a l'impression d'aller dans tous les sens, hein, on ne s'est plus donné de la tête, mais ça ne marche pas. Donc, on se décourage. Donc, on se dit que finalement, ben, la photographie, effectivement, ben, le gars sur Facebook, là, que j'avais lu l'autre fois, son commentaire, mais il avait raison. On ne peut pas vivre de la photographie. Ouais, c'est vrai, il a raison. C'est vraiment difficile. OK. Ben, alors, oui, c'est pas facile. Oui, ça prend du temps, évidemment. Mais parce que vous n'avez juste pas fait ce switch-là dans votre cerveau. Et c'est normal, vous ne saviez pas. Moi, mon rôle, c'est de vous le dire, de changer de paradigme. Alors, je vous ai fait une petite septième bonus. Attendre d'être prêt à 100%, c'est vraiment la transition parfaite avec ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est croire que pour se lancer, il faut être prêt. Et ça, c'est quelque chose qui est très commun chez les photographes, très récurrent, parce que très souvent, et c'est très bien, c'est une bonne chose, on est très exigeant avec soi-même. Dans le post-traitement, dans les réglages, dans le cadrage, on est pointilleux, tatillon, on ne veut pas qu'il y ait un truc qui dépasse. Voilà, c'est notre façon de faire, on a envie du beau, on est baigné dans le beau, on a cette exigence du beau, de l'esthétisme, et donc ça peut dégouliner dans l'aspect entrepreneurial de notre activité. Et ça peut être un vrai piège. Parce que du coup, puisqu'on est hyper exigeant, on n'ose pas se lancer. Voilà, par exemple, je sais pas, mon site n'est pas prêt. Donc, on voudrait être rassuré, vous voyez, je le ferai quand je serai vraiment prêt. C'est typiquement le coût du site Internet. Je dirais que je veux être photographe pro ou je commencerai à vendre mes photographies quand ma boutique sera prête. Mais c'est quoi prêt, en fait? Rien n'est jamais prêt. On prend l'exemple d'une maison. Vous savez, mon papa, quand j'étais plus jeune, il avait acheté une maison de campagne qu'il a retapée dans laquelle on habitait après. Et moi, je voulais un cheval quand j'étais gamin. Et donc, je lui demandais, papa, quand est-ce qu'on aura un cheval? Et il me disait, quand la maison sera finie. Ok, d'accord. Ça a été, il m'a eu comme jamais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la maison, n'était jamais finie. Jamais finie. Mais même une maison neuve, elle n'est jamais finie. Ok? Il y a toujours un truc à faire. Donc, on n'est jamais prêt. Jamais, 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 jamais. Donc, se dire que je ferai ça, je me lancerai, je dirai sur Instagram que mes photos sont à vendre quand mon site sera prêt. Quand, par exemple, voilà, quand mon processus photo sera plus établi, quand j'aurai un style plus abouti. Mais ça veut dire, enfin, quand est-ce, posez-vous cette question, quand est-ce que vous saurez que votre style est abouti? Quand est-ce que vous saurez que votre site est prêt? Quand est-ce que vous saurez que votre compte Instagram est beau? Finalement, ben, vous ne savez pas. Et comme on ne sait pas, comme il n'y a pas vraiment une date butoir là qui est là, ben vous le faites pas. Parce qu'il n'y a pas une deadline, il n'y a pas de date butoir, parce qu'on ne sait pas quand on sera prêt finalement. Ça, c'est la pire excuse du monde et la plus piégeuse. Et puis aussi, on se dit, ben oui, mais Régis, t'es bien gentil, mais si je suis pas prêt, là, je sens vraiment, mon site internet, il est bancal, il n'y en a même pas, ok? J'ai pas de processus pour vendre des photographies, par exemple, voilà, j'ai bien un tireur vers chez moi, là, qui fait du bon boulot, mais comment je fais pour envoyer? Et puis, s'il est pas content, et puis, s'il y a un problème dans l'envoi, et puis, j'ai pas ma structure encore, j'ai pas mon entreprise, donc, j'ai pas le droit. Et donc, tout ça, finalement, ça empêche d'avancer. Sauf que le truc, c'est que si vous attendez vraiment que tous les feux soient ouverts, vous n'avancerez jamais, vous ne le ferez jamais. Parce que tous les feux ne sont jamais ouverts. Jamais. Jamais, 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 jamais. Conséquence, vous ne vendez pas. Et comme vous ne vendez pas, eh bien, vous avez zéro retour client, vous n'êtes pas confronté à votre marché. Et ce qui fait que derrière, vous n'avez aucune façon de savoir si ça fonctionne. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel vous êtes. Donc, un conseil, arrêtez d'être trop exigeant avec vous-même. Acceptez que ce ne soit pas parfait. Acceptez que votre site, que vos photos ne s'affichent pas comme vous voudriez. Acceptez qu'il y aura peut-être des couacs sur les premiers envois. OK. Acceptez ce genre de choses-là. Acceptez le défaut, finalement, quelque part. Vous pouvez me communiquer là-dessus. C'est tout à fait possible. Vous êtes humain. Il n'y a aucun problème. Donc, tout ça, c'est cette erreur que je viens de vous dire. Tout ça, c'est normal. Absolument normal. Quand on commence en tant que photographe pro, même si vous n'êtes peut-être pas encore, vous n'êtes pas votre structure, vous n'avez pas lancé votre entreprise, elle n'est pas créée. Mais bon, peu importe. Vous vous lancez tout seul et vous devez vous lancer tout seul. C'est normal. Mais il est faux de croire que tout s'apprend sur le tas. Il est faux de croire que tout se fera tout seul naturellement. C'est faux. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Il n'y a rien de naturel. Mais par contre, tout s'apprend et tout se crée. L'entrepreneuriat s'apprend. La photographie s'apprend, c'est OK, vous le savez, parce que vous êtes là, parce que vous avez appris la photographie. L'entrepreneuriat s'apprend, comme le reste. Devenir chef d'entreprise, ça s'apprend. Gérer le stress du chef d'entreprise, ça s'apprend. Prendre confiance et se sentir légitime, ça s'apprend aussi. Je sais, ça peut paraître dingue. Vous vous dites, oui, mais moi, je n'ai pas confiance en mes photographies, je n'ai pas confiance en moi, je ne me sens pas légitime, je n'ai pas fait d'école de photographie, je n'ai pas fait d'école de vente, je ne suis pas équipé comme un pro. Voilà, j'ai un réflexe qui date un petit peu. Toutes ces choses-là, vous ne vous sentez pas en confiance. Ça s'apprend. Et pas en achetant un nouvel appareil, hein, en travaillant son esprit. S'organiser, ça s'apprend, évidemment. Déléguer, ça s'apprend. Et construire un produit photo et le vendre, quel qu'il soit, ça s'apprend aussi, évidemment. Tout ça, ça s'apprend. Et j'en suis la preuve vivante. Quand j'ai commencé en 2013, j'étais bon photographe, j'espère que je suis toujours, bon prof, puisque je venais de l'enseignement, et hyper motivé. Sauf que je ne savais pas vendre. Tout ce que je viens de vous dénumérer ici, là, tout ça, je ne savais pas. J'ai découvert au fur et à mesure. J'ai appris au fur et à mesure, un peu sur le tas, par l'expérience, j'avoue, mais aussi beaucoup en me formant. Et donc, j'ai pu, vivre de mes compétences photo, grâce à mon talent de photographe, on va dire ça comme ça, à mon savoir-faire de photographe, à ma motivation, à mes compétences aussi, comment dire, de pédagogiques dans le cadre de mes formations photo, mais aussi et surtout parce que j'ai appris tout ce que je viens de vous lister là, en entrepreneuriat vraiment au sens global. On attaque à présent les trois piliers. Pour mettre toutes les chances de votre côté, le mot chance n'est peut-être pas le meilleur, parce que quand on dit chance, en gros, c'est on attend que ça vienne. Non, c'est la fameuse phrase, les photographes animaliers qui sont là ce soir, je fais une parenthèse, hein, je suis photographe animalier, c'est mon domaine de prédilection, mais si vous êtes photographe de mode, tout ce que je vous dis là ce soir, ça marche aussi, évidemment, hein, je suis photographe entrepreneur. Ok. Donc, la fameuse phrase du naturaliste Robert Reinhart qui disait « Il faut être patient jusqu'à fatiguer la chance ». Là, j'ai envie de vous dire, en tant qu'entrepreneur, alors oui, il faut être patient, mais il faut être résistant, résilient, formé, entreprenant, et il faut passer à l'action jusqu'à fatiguer la chance. Ok, donc, on y va. Pilier numéro un. Le pilier numéro un, vous devez être plus qu'un photographe. Vous n'êtes pas que un photographe. Vous devez être plus que ça. Alors, c'est quoi être plus que ça? Je prends le parallèle avec la restauration. Imaginez, vous allez dans un très bon restaurant. Un étoilé, par exemple. OK. Vous n'allez pas dans un étoilé juste pour manger chez un cuistot, juste pour vous sustenter. Le verbe est vraiment, c'est au côté, juste pour subvenir à votre besoin primaire. Non. Sinon, vous mangez chez vous, quoi. Voilà. Non. Vous allez au restaurant, pourquoi ? Étoilé, hein ? Pour y vivre une expérience, liée à la gastronomie, mais pour vivre une expérience. Que veulent vos futurs clients ? Peu importe ce que vous vendez, tirage photo, shooting photo, formation photo, que veulent-ils ? Ils ne veulent pas un photographe. Enfin, eux, ils se disent ça, évidemment, mais au fond d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils ne veulent pas, un cuistot qui sert du réchauffé. Ils ne veulent pas un photographe qui a rien derrière, ok ? Ils veulent pas, une photocopie quelque part, sinon ils vont chez Ikea, puis ils achètent le tirage chez Ikea, sinon ils vont se faire une photographie photomaton. Vous voyez, c'est la même chose, s'ils veulent juste un portrait d'eux, photomaton, ou un selfie au smartphone, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent pas que ça, ils veulent pas que un photographe. Ils veulent quoi ? Ils veulent une expérience, ils veulent une solution à leur problème, atteindre une situation ardemment désirée. Je vous mets un exemple juste après. Et à chaque fois que je dis ça, ces trois choses-là, à chaque fois que je les dis, oui, ça marche pour n'importe quoi. Pour tout ce que vous voulez vendre, ça marchera. C'est toujours la même chose. Tirage photo, vous dites oui, tirage photo, je ne comprends pas trop là. Quelle expérience les gens peuvent avoir à un tirage photo ? Si les gens vont vivre une expérience, certes, pas la même que si vous leur faites une session de shooting photo au bord d'une rivière avec je sais pas avec une équipe de maquilleurs par exemple. Évidemment, c'est pas la même expérience, bien sûr, mais ça reste une expérience quand même. Je vous mets un exemple juste après. Par exemple, tiens, pour le coup, que veut un nouveau cabinet dentaire ? C'est votre client potentiel, ok ? Il veut quoi ? Lui, ce qu'il veut en tant que praticien, il veut pas un photographe, il veut pas ça dans son cabinet. Okay, je vous montre la photo du renard, ou celle-ci, ou ça peut être n'importe quoi comme autre photo, on s'en fiche. Il ne veut pas ça dans son... Qu'est-ce qu'il veut, le nouveau cabinet dentaire, le nouveau dentiste ? Il veut quoi ? Il veut baisser la douleur perçue de ses patients, il veut réduire le stress de ses patients, il veut changer l'image des dentistes, il veut faire venir plus souvent les patients, et pas attendre 2-3 ans que les caries s'installent ou je ne sais pas quoi, les faire revenir plus souvent, qu'ils aient moins peur. C'est ça qui veut le photographe, le dentiste, le praticien avec son nouveau cabinet dentaire. OK ? Eh bien, vos tirages photos, vous en tant que photographe, vous pouvez résoudre ces problèmes. Oui, c'est prouvé scientifiquement que les photographies baissent la douleur perçue parce que quand on regarde une photographie particulièrement de nature, ou même d'autres choses, mais particulièrement de nature, c'était testé là-dessus, les gens qui subissent une action médicale ressentent moins la douleur parce que, en gros, leur esprit dire détourner, ça réduit le stress, ça évidemment, et puis d'ailleurs, c'est corollaire de ça, c'est que ça va changer l'image des dentistes et peut-être que les gens viendront plus souvent. Et vos photos sont capables de ça, c'est incroyable, j'en suis absolument convaincu. Donc vous êtes plus qu'un photographe, vous êtes une personne qui est capable, grâce à votre talent photographe, grâce à votre expertise, votre savoir-faire, qui est capable de allez, je vais le dire, je vais lâcher le mot, mais de changer la vie, alors la vie, un pan de leur vie en tout cas, hein, de changer une partie de la vie des gens, sur la partie sur laquelle ils n'arrivent pas à trouver une solution. Que ce soit des tirages photo, que ce soit des shootings photo, que ce soit de la formation photo ou d'autres choses. J'aime beaucoup cette phrase de Maya Angelou qui dit « Les gens oublieront ce que vous dites, ils oublieront ce que vous faites, mais jamais ils n'oublieront ce que vous leur avez fait ressentir. » Et c'est ce que vous devez rechercher vous en tant que photographe. Deuxième pilier, vous devez être efficient. Efficient, c'est quoi ? C'est plus qu'efficace. Efficient, c'est être productif en un minimum de temps. C'est, en gros, c'est faire les choses qui vous rapprochent de votre but en un minimum de temps. C'est ça, être efficient. Okay ? Et donc, vous devez être efficient. Parce que, voilà, je crois que je l'écris juste après, la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que vous êtes salarié, vous avez une famille, vous avez des activités connexes, du sport, je sais pas, de l'art, de la lecture, peu importe ce que c'est. Et en plus de ça, vous voulez vivre de la photographie pour quitter votre job et gagner en liberté. Liberté peut-être financière, liberté géographique, liberté d'organisation, liberté de travail, pas avoir un patron, peu importe ce que c'est pour vous, ce que ça veut dire la liberté. Mais en tout cas, vous voulez ça. Donc, ça veut dire qu'en plus de ce que vous avez déjà, vous rajoutez ça. Eh bien, je vais vous dire la réalité, vous le savez, mais je vous le dis, le pays des bisounours, ça n'existe pas. Les miracles non plus. La chance, il faut la provoquer, comme disait Robert Hénard, d'une façon. Pourquoi je dis que le pays des bisounours n'existe pas ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ce que je disais dans le côté, vous savez, vouloir tout faire tout d'un coup, ou non, attendre que ça se fasse tout seul. Alors, voilà, je sais que si je vous dis qu'il faut être organisé, déjà, vous allez me dire, oui, Régis, c'est bien gentil, mais déjà comment ? Je vous donnerai quelques petites astuces juste après, dans quelques secondes. Mais je sais pertinemment, parce que ça arrive chez mes élèves, quand on aborde cette partie-là, et qu'ils me disent, oui, mais Régis, moi, dans mon boulot, je suis déjà très organisé. Eh bien, justement, j'ai envie que la photographie, ça reste, vous savez, ça reste un moment de plaisir. Je n'ai pas envie de me rajouter des contraintes, justement, d'organisation, j'ai ça comme temps, et ben dans ce temps que j'ai, ben je dois mettre ça, et puis après ça, et puis après ça, et puis réorganiser, et puis déplacer des machins. Je comprends ça, je comprends parfaitement ça. Alors, si vous avez besoin, pour l'instant, de lâcher la bride, et de prendre du plaisir, et de ne pas vous donner des contraintes, ok, je le comprends parfaitement, et moi aussi, je suis passé par là. En revanche, si c'est quelque chose qui ne vous embête pas, vous devez absolument gagner en efficience. Et pour gagner en efficience, il faut être organisé. Alors, il y a un piège terrible, c'est attendre d'être à son compte, justement. Voilà, on se dit toujours, je serai organisé. Vous savez, c'est comme l'argent. J'épargnerai, je mettrai de côté quand je gagnerai plus. Ça, c'est le vrai piège. Non, c'est pour avoir plus d'argent, quand j'aurai une augmentation, ou quand un crédit sera fini, ben, je commencerai à mettre de côté. C'est maintenant, c'est on met de côté, là, tout de suite. 3 euros, on s'en fiche, mais on met de côté. C'est la même chose pour ça. On se dit, mais j'attendrai d'être à mon compte, ou d'être à mi-temps, par exemple, ou de changer de poste, parce que je me rapproche, en ce moment, je travaille à une heure de route de chez moi, donc c'est pénible. Donc, quand je travaillerai sur mon nouveau poste, je serai plus qu'à un quart d'heure. Donc là, oui, là, ok, là, je m'organiserai, mais pour l'instant, je peux pas. Ça, c'est un piège. Encore une fois, c'est l'inverse. Il faut les créer, il faut les provoquer. Il ne faut pas attendre que j'ai ça pour, ok, bah, après, je ferai le truc. Je m'organise maintenant, même un tout petit peu, parce qu'en m'organisant, ça me permettra d'atteindre ce que je veux. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas en me disant, quand j'aurai ce que je veux, là, je pourrai commencer à le faire. C'est exactement l'inverse. Voilà, pareil, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai mon local et tout ça, vous connaissez, peut-être des excuses que vous avez déjà. La seule solution efficace, la seule que je connaisse, c'est quoi ? Eh bien, c'est aller chercher dès maintenant l'efficience. Si vous pouvez, je répète, hein, si c'est quelque chose qui pour l'instant, vous le pouvez. Hein, si vous avez besoin de liberté et votre boulot vous saoule au plus haut point et que la photographie est votre bouffée d'oxygène, accordez-vous ça pour l'instant. OK, mais vous ne pourrez pas y couper. Si vous voulez atteindre votre objectif de vivre de la photographie en un minimum de temps, ce minimum-là, je ne le connais pas. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien. Si vous voulez atteindre le plus rapidement possible, vous devez absolument gagner en efficience et aller la chercher maintenant, dès maintenant. Allez faire des toutes petites choses qui vont vous permettre d'atteindre cette efficience-là. Comment ? Ben, en s'organisant. Alors, c'est propre à chacun, mais à mon sens, il y a une structure incontournable pour gagner justement en efficience et être plus efficace. Premièrement, c'est écrire son objectif à un an. Qu'est-ce que vous voulez dans un an-là ? Qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Vous l'écrivez noir sur blanc. Qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Alors, n'écrivez pas « vivre de la photographie ». Écrivez une chose bien plus concrète que ça. C'est, par exemple, dans un an, parce que vivre de la photographie, ce n'est pas mesurable. Vous voyez, c'est difficilement mesurable en tout cas. Et puis, c'est trop vague. Dites, écrivez simplement, dans un an, je veux que générer à minima 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Dans un an. C'est mon objectif. OK, ça c'est écrit. Très bien. C'est mesurable, quantifiable. À partir de là, après, on fonctionne par trimestre. Donc, à 3 mois, vous voyez, pour atteindre ce truc à 1 an, eh bien, qu'est-ce que je dois atteindre dans 3 mois ? Qu'est-ce que je dois faire dans 3 mois ? Donc, j'écris juste après, voilà. Par exemple, dans 3 mois, je dois absolument, avoir fait mon site Internet. Parce que je sais bien que sans ça, ça va coincer, quoi. Hein. Il faut bien qu'il y ait un endroit où les gens arrivent pour acheter. Il faut qu'il y ait une boutique, il faut qu'il y ait un panier, il faut qu'il y ait une page de règlement. Il faut qu'il y ait ça, c'est OK, même si c'est un peu bancal, même si ce n'est pas très beau et propre, il faut qu'il y ait ça. Donc, dans 3 mois, je veux avoir ça. 3 mois prochains, qu'est-ce qu'il me faut ? OK, donc voyez-vous, tous les 3 mois, vous mettez ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif à 1 an. Et une fois que c'est fait, vous allez lister toutes les actions à mettre en place pour atteindre l'objectif à 3 mois. Ça, c'est important. Alors, il y aura des oublis, ce ne sera peut-être pas exhaustif, mais au moins, ça aura le mérite d'être fait. Vous devez, une fois que c'est fait, trouver tous les voleurs de temps que vous avez dans une semaine. Et ces voleurs de temps, c'est les supprimer ou les réduire. On les connaît, ces voleurs de temps. C'est zoner sur Instagram, sur YouTube, regarder des séries. C'est quoi ? Dans les transports, peut-être. On peut peut-être gagner un petit peu de temps. Si on ne peut pas le gagner, en tout cas, l'utiliser différemment ce temps-là dans la voiture. Écouter des choses qui nous permettent d'apprendre. Un podcast, par exemple. Mon podcast, pourquoi pas ? Ça peut apprendre des choses. Donc, vous voyez, les voleurs de temps, on les supprime ou en tout cas, on les réduit. Ensuite, c'est déterminer le nombre d'heures disponibles pour son projet dans une semaine. Dans une semaine, vous savez que vous avez, 8 heures pour votre projet. En plus de ce que vous faites déjà, hein, de tout. Voilà, vous avez calculé que dans une semaine fait 172 heures, je crois, quelque chose comme ça. Vous savez qu'en calculant, en additionnant tout, le travail, les enfants, l'hygiène, dormir, manger, tout ça, vous arrivez à 160 heures. Voilà, donc il vous reste 12 heures pour votre projet. Et donc, pour ces 12 heures-là, eh bien, vous allez ensuite, tout simplement, répartir ces 12 heures, dans les actions qui permettent d'atteindre les objectifs. Donc ça, c'est très simple. Dans mon programme, on apprend à faire ça de manière très concrète. Hein. Ça fait partie des ateliers qui sont prévus, qui sont, j'anticipe un petit peu, mais qui sont là-dedans. Mais pour que vous ayez quelque chose qui, une structure et qui marche très, très bien et que j'applique pour moi. Pilier numéro 3. Activer la bonne matière première. Alors ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Et vous devez vous demander de quoi je parle. Vous devez activer là où les bonnes matières premières. Voilà de quoi je veux parler. Quand on lance, crée, développe un business, et ça, c'est valable pour tout, hein, pour tout, mais donc du coup, en photographie, vous avez 4 matières premières. La première matière première, c'est le temps. C'est une matière première, on va l'appeler comme ça, hein, voilà, c'est une matière première. Alors, celle-ci, elle est un peu différente, parce qu'on ne peut pas la récupérer, on ne peut pas en produire plus. On ne peut pas l'arrêter, par exemple, on ne peut pas la stocker. Donc, c'est une matière première particulière, mais on va l'appeler quand même matière première. Deuxième matière première, l'argent. C'est une matière première. Troisième matière première, vos compétences entrepreneuriales. Okay ? Marketing, vente, mindset, état d'esprit, commercial, toutes ces choses-là. Matière première, numéro 4, vos compétences photos. C'est aussi une matière première. Le constat, alors vous me direz dans les commentaires si j'ai juste, mais je pense que je ne suis pas trop loin de la réalité. Voilà ce qui se passe pour vous au début. Là, vous vous lancez. Okay, en tout cas, vous êtes dans cette zone-là, vous voyez, un petit peu tangente, où vous sentez que vous avez envie d'aller y aller. Vous êtes déjà peut-être un peu avancé, mais en tout cas, la photographie pro vous appelle. Peu importe de quelle manière, mais elle vous appelle. Là, maintenant, vous possédez évidemment la matière première, compétence photo. Donc, du coup, vous possédez la quatrième matière première, compétence photo. Vous la possédez, celle-ci. Et vous êtes, on va dire, expert, malgré tout. Peu importe que vous vous dites, oui, mais je n'ai pas le niveau, vous voyez, hein, on est tous un peu pareil, mais on se dévalorise un petit peu, on est exigeant avec nous-mêmes, voire même des fois très sévère, mais vous avez quand même une vraie compétence avérée en photographie. Donc, la matière première photo, vous l'avez, elle est là. Par contre, ce qui se passe, c'est que vous manquez des matières premières temps, puisque vous avez un métier à côté. Vous manquez de la matière première argent, parce que vous lancez votre business, ou en tout cas, vous n'avez pas de trésorerie. Vous n'avez pas vendu encore ou pas suffisamment. Vous n'avez pas vendu assez pour stocker cette trésorerie, pour avoir un pécule. Vous n'avez pas fait de levée de fonds, vous n'avez pas fait de prêt. Donc, vous manquez de la première matière première, argent. Et vous manquez également de l'autre matière première, la troisième, qui est celle de compétences entrepreneuriales. Vous manquez de ces trois matières premières-là. Okay ? Sauf que c'est quelque chose qui est humain et qui est logique. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites, vous, probablement, actuellement ? Qu'est-ce que j'ai fait moi aussi, hein ? C'est que vous mettez le focus et vos efforts sur la matière première photo, celle que vous avez déjà. Pourquoi ? Parce que c'est là où on est bon. Et comme on est bon là-dedans, le cerveau qui veut toujours notre bien et nous maintenir en vie, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut nous laisser dans le confort. Et le confort, c'est quoi ? C'est ce qu'on sait déjà faire. Donc, et puis, c'est ce qu'on se dit. On se dit, ben, je suis photographe. Donc, si je suis photographe, je dois être encore meilleur là-dedans. Je dois faire les plus belles photographies possibles pour que mes clients soient le plus contents possible, pour me démarquer artistiquement des autres. Donc, vous allez encore plus là-dedans. Et peut-être le peu de temps que vous avez disponible, vous allez là-dessus. La solution, vous la voyez venir, c'est de réduire consciemment, de manière stratégique, organisationnellement, je l'ai dit, réduire la part consacrée à la matière première photo, volontairement. Pourquoi faire ? Alors, en fonction de votre situation, après, vous allez voir, mais augmenter la matière première, ben, temps, argent. Alors, hop, je reviens juste, voilà, temps. Je reviens sur les voleurs de temps. C'est plus facile à faire, ok ? Vous manquez de matière première temps, enlevez les voleurs de temps. Netflix, YouTube, machin, ok ? Enlevez ça. Vous voulez quoi ? Vous voulez devenir, alors je suis un peu caricaturé, pardon, voilà, un peu extrémiste, mais est-ce que vous voulez devenir spécialiste en série TV et faire des chroniques sur Hebdo TV Magazine ? Ou est-ce que vous voulez avoir la liberté entrepreneuriale et la liberté de temps, la liberté de géographique et vouloir vivre de vos compétences photo ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça, en fait, la vraie question. Si vous voulez, la première chose, regardez plein de séries et vous deviendrez peut-être chroniqueur, et très bien. Si vous voulez venir, si vous voulez vivre de la photographie, alors arrêtez ça et enlevez ce bloc de temps et augmentez la matière première temps. Si vous ne pouvez pas, pour plein de raisons, en tout cas, c'est assez réduit déjà, ok. Ben, l'autre possibilité, c'est d'augmenter la matière première argent. Comment on fait ? On peut faire un prêt bancaire. Vous avez un projet solide, vous allez voir votre banquier, vous pouvez faire un prêt bancaire. Pourquoi pas ? Ce qu'on appelle aussi la love money, c'est demander à vos proches. Alors moi, je l'ai fait quand j'avais commencé en 2014, gros trou d'air, et j'ai demandé à mes parents 2000 euros. Voilà, c'était, on appelle ça la love money, ok. Après, on s'arrange, et puis on rend, et puis on s'organise, voilà. Donc, vous pouvez activer ce levier-là. Moi, ce que je vous conseille de faire vraiment, augmenter dans tous les cas, et toujours, et constamment, la matière première, compétence entrepreneuriale. Dans ce grand paquet, je mets le mindset, l'état d'esprit, la motivation, apprendre confiance en soi, en son offre photographie, avoir la foi dans son offre, savoir que ce qu'on va offrir aux gens, ça va les aider, ça va changer leur vie, ça s'apprend. Il y en a qui, on dit souvent, oui, mais lui, il a de la chance, il a le bagou, il a confiance en lui. Peut-être qu'il a cette chance-là. Ok, très bien. Nous, on a d'autres qualités. Et donc, la qualité, avoir la compétence, avoir confiance en son produit, en son offre, ça s'apprend. Donc, toujours activer, augmenter cette matière première, compétence marketing, des trucs, des astuces, des outils, apprendre à jouer aussi avec certains leviers émotionnels, parce que vous avez une mission, et cette mission, c'est laquelle ? Vous avez deux missions. La première mission, elle est égoïste, c'est d'atteindre votre objectif de vie, pour vous, pour vos proches, votre famille. Elle est égoïste, et c'est celle-ci qui est la première. Okay. Pourquoi moi, ce soir, je vous fais une conférence ? Parce que j'ai deux missions. La première, ma mission égoïste, c'est de gagner suffisamment d'argent dans mon entreprise pour pouvoir vivre la vie que je rêve d'avoir avec moi, enfin avec mes enfants et mon épouse. Ça, c'est ma mission égoïste et c'est la première. Et la deuxième mission, elle est altruiste, c'est, eh ben, vous êtes là, vous, ce soir, c'est celle-ci, c'est pouvoir vous donner des clés et vous aider à travers ce que je fais ce soir, mais à travers aussi mon programme de formation, vous aider à créer, développer un business photo et à vivre de votre passion pour la photographie. Okay. Et vous, c'est pareil. Vous avez deux missions, égoïstes et altruistes. Mais pour atteindre ces missions-là, vous devez absolument augmenter les trois matières premières que je viens de vous dire, et particulièrement celle qui concerne les matières premières compétences entrepreneuriales. Ces trois piliers ne fonctionnent que si vous avez la patience et la résilience. Patience, ben, c'est votre capacité à tenir, et la résilience, c'est la capacité à tenir dans l'adversité. Vous aurez des moments incroyables dans l'entrepreneuriat, c'est sûr, mais vous aurez aussi des vrais moments de doute, de tout envoyer balader, tout envoyer valser. Mais pourquoi n'achète pas ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourtant, j'ai tout fait. Il me semble que je n'ai pas fait d'erreur, vous voyez, je ne comprends pas. Pas de bol, le Covid, c'est vrai, le Covid, c'était très particulier, très difficile pour beaucoup. Mais voilà, donc en tout cas, patience, résilience sont quelque chose qui doit être en fond pour vous, mais ce fond, sur ce fond-là, vient se poser. Vous êtes plus qu'un photographe, vous devez être efficient et vous devez activer les bonnes matières premières. Troisième partie finalement de cette conférence, des actions à lancer maintenant, parce que le passage à l'action est le carburant. Action numéro un, vous devez, alors voilà, ça je vous demande alors de le faire peut-être ce soir, demain matin, peu importe, mais de le faire très vite. Vous devez écrire, je vous invite en tout cas à écrire noir sur blanc, votre facteur X de photographe. C'est quoi le facteur X ? Ben, c'est le côté qui fait que vous n'êtes pas que un photographe. Okay. C'est quoi ce facteur X ? Des pistes, ça peut être ce qui est facile et naturel et ce qui vous rend heureux. C'est un peu bateau, c'est un peu tarte à la crème, et pourtant, c'est ça aussi qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce qui, dans la photographie, vous est facile, naturel et vous rend heureux ? Exemple, mon facteur X de photographe, vraiment, je parle de photographe là, je parle plus, j'enlève la casquette d'entrepreneur, de marketeur, de tout ça, de coach business, je parle de moi en tant que photographe, mon facteur X de photographe, c'est d'attendre 10 heures dans un affût le passage d'un animal sauvage. Bon, on va dire que c'est ça mon facteur X. Je suis plus qu'un photographe. Je suis capable de me mettre dans une bulle, dans un cocon qui fait que je peux attendre 10 heures dans un tout petit espace, périmètre très restreint, attendre. Et des fois, il n'y arrive pas sur rien. Et des fois, au bout de 10 heures, il n'y a rien eu. Voilà, ça, c'est mon truc à moi. OK ? Action numéro 2. Vous devez définir clairement à qui vous voulez améliorer la vie ou alors, si ça vous gêne, améliorer une petite partie de la vie. Vous devez compléter la phrase. Je deviens le photographe qui permet au ou à... Par exemple, je deviens le photographe qui permet aux entreprises locales de lier leur mission d'entreprise, donc les leurs, hein, leur mission d'entreprise, leur valeur, on va dire, hein, aux valeurs de la faune sauvage locale. Typiquement, chez moi, j'ai des artisans qui reçoivent du public, par exemple. Des concessionnaires, pourquoi pas, allez, j'affiche tout, mais des concessionnaires, par exemple, local, du petit village. Il y a un côté donc voiture, polluant, très industriel, mais par contre, ils veulent vraiment avoir le côté implanté localement, okay, et jouer là-dessus. Donc moi, je peux être le photographe qui permet, par mes photographies, hein, par mes tirages photos, de lier cette ambition de mission, de véhiculer cette mission-là pour cette entreprise avec les valeurs de la faune sauvage locale qui sont celles de la nature, du bien-être et tout ça. Voilà. Action numéro 3, déterminer où être présent pour se faire connaître. Je reviens sur mon exemple. Hein. Ma clientèle potentielle est donc CF2, partie 2B, donc ça veut dire CF, les entreprises locales qui veulent voilà, développer leur mission justement locale. Cette entreprise, ce marché cible, on va dire, cette clientèle potentielle, elle est principalement présente. Voilà, il faut finir la phrase. Okay, donc elle est principalement présente sur les pages jaunes, ben clairement, hein, je prends le bottin et puis ça n'existe plus maintenant, ils ne le font plus, mais je vais sur Internet, je regarde les pages jaunes, artisans local, concessionnaires local, alors pas les Renault, pas les sujets, mais voilà, les petits, on va dire les petits, qui n'ont pas de, comment dire, de concession, hein, voilà. Et puis là, sur Facebook, peut-être qu'ils y sont, LinkedIn probablement. Donc voilà, je vais prospecter, investir ces endroits où ils sont potentiellement. Voilà pour les trois actions. Vous voyez, c'est très simple, il y a évidemment plus que ça. Mais déjà, ces trois-là vont vous donner de la clarté, j'espère en tout cas. Et elles seront. Alors, vous allez le faire, je vous invite vraiment à le faire. Faites-le, écrivez noir sur blanc. Et évidemment qu'il faudra affiner, en faire plus, c'est le début. C'est le début. Okay, et ça, c'est sans fin. On peut toujours affiner son marché cible, affiner, aller chercher où ils sont, voilà, encore plus prospecter, bien sûr. Mais faites ces trois actions-là qui vont vous donner un peu plus de clarté.
Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour le prochain rapidement. D'ici là, portez-vous bien, faites des photos qui vous plaisent et n'oubliez pas, passer à l'action est le meilleur moyen d'avoir des résultats. We'll be right back.